Veri desfășurile de significat al internet.
Dans son rapport final publié la semaine dernière, la mission d'observation de l'Union européenne estime que les résultats des dernières élections en RDC manquent de crédibilité. Pour plus de transparence lors des prochaines élections, elle recommande notamment la mise en place immédiate de la Cour constitutionnelle et la recomposition de la CENI en tenant compte du nouveau paysage politique. Comment analyser ces recommandations? Nos invités sont Raphaël Loulou, conseiller principal du chef de l'État, chargé du suivi des activités du Parlement et des institutions d'appui à la démocratie. C'est le conseiller Loulou, bonsoir.
Bonsoir.
Maître Moïse Niarougabo, sénateur de l'opposition et cadre du parti politique Rassemblement Congolais pour la démocratie. Sénateur Niarougabo, bonsoir.
Bonsoir, monsieur.
Professeur Félicien Kabamba, politologue et chercheur au centre d'études politiques de l'Université de Kinshasa. Bonsoir, professeur.
Bonsoir.
Vous êtes très nombreux à nous envoyer vos réactions comme d'habitude. Assoumani de Bukavu, cultivez-vous. Devons-nous toujours attendre que l'Occident exerce une pression sur le gouvernement pour que la Cour constitutionnelle soit mise en place? C'est Félix Fungi de Kisangani en province orientale. Pourquoi publier un tel rapport au moment où la situation politique du pays s'améliore petit à petit? N'est-ce pas là une façon de jeter encore de l'huile sur le feu? Nous sommes mercredi 4 avril 2012. Bonsoir chez vous.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiopatrie.net.
La mission d'observation de l'Union européenne recommande à l'ensemble des composantes de la société civile congolaise un dialogue sans délai. Devant la presse, la chef de cette mission a jeudi dernier à Kinshasa a dressé le rapport final d'observation des dernières présidentielles et législatives en RDC. Les critiques formulées par Marianne Belcheva sur ces élections consistent à reformer le processus électoral en vue d'améliorer la transparence et la crédibilité des prochains scrutins. C'est l'une des recommandations qui ressort de ce rapport. Jeff Ngoy.
Le rapport de la mission d'observation de l'Union européenne est assorti de 22 recommandations. Celles-ci visent à améliorer la mise en œuvre des prochaines séances. Le rapport reprend à son compte les prises de position telles que la mission les a rendues publiques dans ses documents antérieurs. Parmi ces recommandations, on peut retenir la mise en place immédiate de la Cour constitutionnelle, la recomposition de la CENI en tenant compte du nouveau paysage politique, la simplification des bulletins de vote, l'audit et la révision du fichier électoral. Marianne Belcheva demande également au Parlement l'adoption d'une loi organique. Cette loi devra répartir clairement les compétences entre le ministère de la Communication et le Conseil supérieur de l'audiovisuel. L'objectif est de mieux définir le rôle du CESAC et garantir son indépendance. Selon la mission, des sanctions devront désormais être envisagées lorsque le délai constitutionnel n'est pas respecté. En matière des droits de l'homme, Belcheva recommande la lutte contre l'impunité en faisant toute la lumière sur les violences commises pendant la campagne électorale, durant le scrutin et après, notamment concernant le comportement des forces de l'ordre et de certaines autorités locales.
Merci, Justin Goyo. Raphaël Oulou, je rappelle que vous êtes conseiller principal du chef de l'État, chargé du suivi des activités du Parlement et des institutions d'appui à la démocratie. Avant que l'on aborde les recommandations, d'abord un mot de façon générale sur le rapport qui dit que les dernières élections en RDC manquent de crédibilité.
Les élections qui ont été organisées le 28 novembre 2011 en République démocratique du Congo ne sont pas crédibles d'après le rapport de la mission d'observation des élections de l'Union européenne. Mais nous pensons, quant à nous, peuple congolais, que les élections en République démocratique du Congo, telles qu'organisées, sont des élections légitimes. Légitimes parce que, comme vous le savez, c'est le peuple congolais qui, avec les institutions congolaises, qui ont organisé les élections, et c'est le peuple congolais qui est allé voter, et le peuple congolais s'est exprimé, et les uns s'étaient exprimés pour l'un ou l'autre candidat, les autres pour le candidat de son choix. Donc, dans la mesure où la pratique démocratique a été pleinement exercée, selon les lois de la République, nous osons croire et nous disons que les élections ont été bien organisées et les résultats sont des élections qui sont acceptées par le peuple congolais, donc légitimes, au terme de ce que prévoient les lois de la République.
François Mbonga, d'ici en province orientale, le rapport de l'Union européenne est venu en retard. Pour la majorité au pouvoir, c'est comme l'eau sur le dos d'un canard, car il a préparé ses élections pour sa propre réussite. C'est un peu votre réaction, donc on peut s'en passer.
Bon, écoutez, il y a deux choses. Le rapport qui vient, quoi qu'en retard, c'est un rapport d'une structure, d'une organisation. On ne peut pas, nous, de la majorité, dire que telle structure, telle organisation ne peut pas faire son rapport. Il est libre de faire le rapport. Quant à dire, nous avons organisé les élections pour gagner, nous ne pouvons pas dire non plus, comme une équipe de football qui va livrer une compétition sportive sans vouloir gagner. Nous sommes allés aux élections, bien entendu, c'est pour gagner, et Dieu aidant, nous avons gagné, nous avons la victoire.
Alors, abordons les recommandations contenues dans ce rapport. Monsieur le conseiller, parmi les grandes recommandations, il y a notamment la recomposition de la CENI d'après le contexte politique actuel. Comment vous analysez cette proposition?
Oui, heureusement qu'il s'agit d'une proposition émanant d'une structure qui n'est pas une structure qui rentre dans la ligne de loi de la République démocratique du Congo, même si on ne doit pas négliger la mission d'observation de l'Union européenne, mais au moins nous disons que la recomposition du bureau de la CENI ne relève que des institutions de la République au regard des lois de la République démocratique du Congo. Lorsque, par exemple, la mission d'observation de l'élection de l'Union européenne fait son rapport, je crois que c'est pas avec un caractère coercitif.
Non, je ne crois pas, mais on a suivi ici en RDC sur les différents médias des acteurs politiques et de la majorité et de l'opposition en train de demander la recomposition du bureau de la CENI.
Tout à fait.
N'est-ce pas opportun?
Opportun ou pas, il appartient. Déjà, nous sommes. La CENI a commencé l'évaluation du processus électoral. La CENI elle-même n'a pas encore terminé l'évaluation. Il appartient aussi aux instances de la République démocratique du Congo, aux institutions de la République démocratique du Congo, de faire cette évaluation. Et nous ne pouvons pas dire que les avis des uns et des autres ne sont pas importants, mais nous disons que ces avis ne remplacent pas les lois de la République démocratique du Congo. Ça veut dire que ce qui va se faire en République démocratique du Congo ne peut être que conforme aux lois de ce pays, conforme aux institutions qui font fonctionner les affaires de l'État en République démocratique du Congo. Je pense que dire que c'est opportun ou c'est inopportun, ce n'est pas le rapport de l'Union européenne qui nous convaincrait de l'opportunité de la recomposition du bureau, mais au moins lorsque les institutions de la République conviendraient que, pour le bien, et ça à l'issue de l'évaluation, pour le bien, le bon fonctionnement des institutions, le déroulement des autres échéances qui restent, s'il faille bien qu'on recompose le bureau, on le fera.
Doit-on considérer que du moment où vous avez gagné les élections, la recomposition de la CENI ne vous intéresse plus?
Non, nous ne disons pas ça. Nous ne disons pas ça. Il n'est pas du tout de l'avis de la majorité de dire qu'on ne peut pas recomposer. Si tel est le sens de tout le monde et de voir que le fonctionnement des institutions ou l'organisation des échéances électorales à venir dépend de la récomposition, il sera opportun de le faire, mais nous ne disons pas, nous, que nous ne devons pas le faire ou qu'on ne le fera pas. Ce n'est pas notre avis et il n'en est pas question chez nous.
Deuxième recommandation, avant de donner la parole au sénateur Moïse Nyarougabo, c'est la mise en place immédiate de la Cour constitutionnelle. Ça traîne quand même, il faut le reconnaître.
L'immédiateté de la mise en place de la Cour constitutionnelle, comme je l'ai dit pour ce qui est de la CENI, et ne peut venir de rapports de l'Union européenne, de la mission d'observation des élections de l'Union européenne, non. Mais je pense que pour ce cas, il faut dire ici qu'on est en train d'enfoncer la porte qui est déjà ouverte. Dans quelle mesure? La loi est déjà adoptée au Parlement, la loi est envoyée à la Cour suprême de justice pour avis et conforme à la Constitution. Je pense que c'est une question d'ordre administratif et dans le temps qu'il faudra, nous aurons l'installation de la Cour constitutionnelle. Si les autorités de la République n'avaient pas besoin que cette Cour soit installée, je crois qu'on n'aurait pas mis cela dans la Constitution, parce que quand vous lisez l'article 223 de la Constitution, il est prévu qu'il y aura une Cour constitutionnelle, et si cela n'était pas le cas, même le Parlement n'allait pas voter la loi et que cette loi ne serait pas envoyée à la Cour suprême de justice.
Sénateur Moïse Nyarougabo, vous êtes cadre du Parti politique Rassemblement Congolais pour la démocratie. D'abord également un mot sur la crédibilité des élections dont parle le rapport de la mission d'observation de l'Union européenne.
Monsieur le journaliste, je note d'abord que la mission d'observation de l'Union européenne n'est pas la première à décrier les irrégularités des élections 2011. Je me demande comment les amis de la majorité se sentent lorsque tout le monde, je n'ai jamais entendu un seul donner un bon rapport. Un seul. Même pas eux-mêmes. Monsieur le journaliste, le centre Carter a dit la même chose. L'administration américaine a dit la même chose. L'Union européenne vient de dire formellement la même chose, que les résultats des élections de 2011 manquent de crédibilité, ne sont pas crédibles. Nous l'avons dit. Moi, je le dis ici à la Radio Capi. Beaucoup d'autres compatriotes l'ont dit. Les observateurs congolais l'ont dit. L'Église catholique l'a dit. Et le président de la République l'a reconnu. Moi, je l'ai suivi. Il a dit simplement que les irrégularités et les fraudes décriées ne pouvaient pas influer sur la position de candidat. Ça veut dire que c'est lui qui venait en premier, pouvait rester toujours en premier, mais il n'a jamais dit qu'il n'y avait pas d'irrégularités. Il a reconnu qu'il y avait des irrégularités. Puis il les a minimisées. Donc, je veux dire que ce n'est pas aujourd'hui que nous apprenons qu'il y a des irrégularités et que les élections ont manqué cruellement de crédibilité. C'est connu et tout le monde le sait. Évidemment, aujourd'hui, c'est un nouvel élément, parce que c'est un rapport bien élaboré, avec des faits, avec des évidences, avec des exemples, mais c'est depuis longtemps que nous savons que les élections ont été bâclées, à notre honte.
Alors, à ce niveau-là, il y a Loubouli Yves de Lubumbashi Katanga qui dit qu'on vient de noter que ces recommandations ne vont pas dans le sens de remettre en cause les institutions issues de ces élections, mais elles visent plutôt à recadrer le processus en prévision des scrutins à venir, et ceci dénote que toutes les irrégularités ne remettent en cause l'ordre d'arrivée lors des présidentielles, comme le dit le rapport du Centre Carter, d'où la déception de l'opposition qui attendait des conclusions sanctionnant le pouvoir en place.
Non, je pense que c'est faux. Où est-ce qu'il est dit que ce rapport ou les conclusions de ce rapport ne visent pas à mettre en cause les institutions en place? Où est-ce qu'il est dit? Lorsqu'on vous dit que ça manque de crédibilité, à vous de choisir de garder les institutions non élues, de garder des prétendus élus nommés. C'est à vous, c'est à nous, c'est pas l'Union européenne, à l'Union européenne de les décider. Mais c'est à nous de savoir quelles sont les leçons que nous allons tirer, quelles sont les conclusions que nous allons tirer des vérités
qu'on nous jette en face. C'est ça.
Alors, selon les deux premières recommandations, sénateur, la recomposition de la CENI et la mise en place de la Cour constitutionnelle.
Je commence par la mise en place de la Cour constitutionnelle. Monsieur le journaliste, j'ai été choqué d'apprendre de la réaction de l'AMP, que c'était déjà en cours. Que tout ce qu'on a recommandé, c'est déjà, les réformes recommandées sont déjà en cours. Et aujourd'hui, le Conseil du président de la République vient de le répéter. Mais je me demande, cher Raphaël, ce que vous faites à côté du président de la République. La loi sur la Cour constitutionnelle a été votée il y a une année et n'a jamais été promulguée. Alors, et lorsqu'il dit que tout ce qui doit se faire doit se faire conformément aux lois de la République, eh bien, je ne sais pas de quelle conformité il parle. La loi sur la, portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle a été votée il y a une année et n'a jamais été promulguée. Le chef de l'État dispose de 15 jours. Et même si on doit envoyer cette loi à la Cour suprême, il y a aussi un délai. Si je ne m'abuse, c'est de 15 ou de 30 jours, c'est dans la Constitution. Mais on prend une année et on pense qu'on a tout le temps. Tout est permis. Et écoutez, finalement, à quoi servent les lois que nous votons si on ne veut pas les appliquer? À quoi elles servent? Que fait le Parlement? Juste pour multiplier le nombre de lois votées qui ne sont jamais appliquées? C'est la honte. Qu'est-ce qui manque pour promulguer une loi? Qu'est-ce que ça vous coûte de respecter les délais? Et c'est exactement la même chose lors des élections. Tout ce qui était prévu par la loi relative aux électeurs, là où il fallait afficher les listes des électeurs 30 jours avant le scrutin, les listes ont été affichées la veille, le soir ou le matin des élections. Il y a des localités où les listes ont été affichées à 5 heures, le jour du vote. Et donc, la loi, ça ne nous dit rien.
Alors,
je pense, monsieur le journaliste, que, effectivement, si on peut encore le dire, si ils ont besoin de nos avis, nous disons que c'est une honte qu'une loi soit votée et qu'elle passe une année sans être promulguée. La loi ne leur donne pas ce droit.
Alors,
d'ailleurs, dans des pays qui se respectent, nous pouvons considérer que la loi est déjà en vigueur, c'est ce que dit la Constitution. Bon, pourquoi on n'a pas mis en place la Cour constitutionnelle pour continuer à utiliser la Cour suprême, dont on pouvait nommer les magistrats pendant la campagne, 18 magistrats de la Cour suprême pendant la campagne.
Alors,
on va faire qui voudra.
La recomposition de la CENI.
La recomposition de la CENI, monsieur le journaliste, je vais simplement dire que je suis heureux aujourd'hui que beaucoup de gens reviennent à la raison. Vous vous rappelez que nous examinions la loi sur la CENI. Je suis de ceux qui avons pris position pour dire on ne peut pas exclure la société civile. S'il y a une société civile qui est déçue, c'est pas toute la société civile. Il y a des confessions religieuses, il y a des syndicats, il y a des ordres des médecins, des avocats. Tout le monde n'a pas déçu. Et on ne voyait pas comment on va avoir un organe, la CENI a un seul organe, le bureau, qui a les compétences de conception, d'orientation, de décision, d'exécution, d'évaluation et de contrôle. Aujourd'hui, on parle de l'évaluation de la CENI. La CENI qui va s'évaluer, qui va évaluer son propre travail, vous allez voir, elle va nous dire que tout est bien. Non, c'est une honte. C'est en fait décider de tourner les doigts à la démocratie et de choisir l'arbitraire. Il faut refondre, il faut refaire la loi sur la CENI. Et je rappelle que c'est la seule loi où l'Assemblée nationale a utilisé ses prérogatives de l'article 135, c'est-à-dire qu'ils l'ont voté en rejetant les positions du Sénat.
Professeur Félicien Kabamba, vous êtes politologue et chercheur au Centre d'études politiques à l'Université de Kinshasa. Quelle est votre analyse en ce qui concerne la recomposition de la CENI ainsi que la mise en place de la Cour constitutionnelle?
Je suis heureux d'écouter l'honorable Nyerere Gabo parce que en fait, il a mis les doigts dans la plaie. Si nous avions des lois, c'est pour les appliquer. Nous ne sommes pas une république bananière. Et donc, à partir du moment, parce que nous avions déjà vu qu'une disposition constitutionnelle est prévue, elle n'est pas appliquée, on choisit de ne pas l'appliquer et après on vient justifier pourquoi on ne l'a pas là qu'il se demande pourquoi le pays peut se doter de lois à partir du moment où on sait que ces lois ne seront pas appliquées. Ou alors, on choisit de ne pas avoir de loi et on évolue dans la jungle, ou on se dit, nous avions de lois parce que nous avions la volonté et nous avons le courage de les appliquer. Et mais là, nous sommes dans un scénario où, depuis plusieurs années, la Cour constitutionnelle a été prévue par la Constitution, mais elle n'a jamais été mise en place. On a parlé de la loi, et même quand la loi a été votée, il n'est pas promulguée, et l'honorable vient de faire mention de cela. Et donc là, véritablement, on se demande si on est un État de droit, un État qui respecte le droit et qui repose parce que tout le monde parle de l'État de droit, tout le monde parle de la loi, mais est-ce que nous sommes véritablement un État de droit ou alors une république bananière? Et moi, je crois que si nous voulons être un État de droit, eh bien, les lois que nous-mêmes nous avions votées, nous ne pouvons pas marcher dessus. Nous ne pouvons pas refuser de les appliquer. Et la Cour constitutionnelle, parce que nous parlons d'elle, est, à mon avis, l'instance compétente, l'instance indiquée pour régler ce genre de problème. Mais faute de l'avoir mise en place, et d'ailleurs je crois que cela a été assez délibéré, eh bien, la Cour suprême de justice continue à faire le travail tel qu'elle a fait. Et je ne voudrais pas revenir sur l'argumentaire de Moïse Nyarugabo, dont évidemment l'argumentaire a été assez intéressant. Concernant la composition de la CENI, là, c'est véritablement un problème. La mise en place de la CENI répondait à l'idée selon laquelle la gestion des élections devrait relever d'un organe composé d'agents honnêtes et indépendants, à la fois de l'administration de l'État et des partis politiques. Mais on peut se rendre compte que cette idée, qui était pourtant facile dans sa conception, a rencontré de nombreux biais opérationnels. De sorte que, aujourd'hui, on se demande si la formule utilisée en RDC est une formule qui peut donner de bons résultats. Ce qu'on a ignoré, c'est que, en fait, le mode de désignation des membres de la CENI avait un impact plus important sur son indépendance. Et le système de désignation et sa composition ont finalement un impact sur ses performances. Et aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'on a eu affaire à une CENI qui avait une indépendance nominale, mais qui n'a pas su également faire un travail opérationnel qui était crédible. Tout le monde parle de la crédibilité de ces élections. Évidemment, je crois qu'il ne s'agit pas là d'un premier son de cloche. On a déjà écouté ça. On a déjà, nous-mêmes, nous sommes revenus plusieurs fois sur le fait que si notre État peut être d'abord un État crédible, il doit être en mesure d'organiser des élections crédibles. Et il me semble clair que ça n'a pas été l'État. Et quand vous lisez ce rapport, qui est un rapport très documenté, qui est très illustré, il vous donne beaucoup, beaucoup d'illustrations. Et à un moment donné, quand vous lisez, vous avez vraiment pitié de cet État et vous dites, si vraiment c'est comme ça qu'il faut gérer les choses, eh bien, il faudra certainement recréer l'État complet.
Professeur Yamou Sadiamungu de Bukavu Sud-Kivu qui dit ce rapport nous apaise davantage. Je me demande si la restructuration de l'équipe de la CENI pourra apporter une solution à la crise politique actuelle ou l'empirer davantage vu les contestations de résultats du 28 novembre dernier.
Là-dessus, il faut préciser que les actuels animateurs de la CENI ont raté la chance d'être au milieu du village. Et donc, à partir du moment, et quand vous lisez le rapport, vous trouvez cela, à partir du moment où ils ont refusé une collaboration entre la République et les autres parties prenantes, notamment les partis politiques de la société civile dans toutes les opérations électorales, et là, ils ont créé une sorte de méfiance vis-à-vis d'autres acteurs. Faut-il continuer avec les mêmes acteurs, sans être sûr que la confiance va être retirée, ou on doit dire, évidemment, ces gens. On n'a pas du tout confiance, il faut repartir sur de bases nouvelles. C'est peut-être là qu'il faut poser la question. Et moi, je crois que la composition de l'infini, dans son format actuel, elle ne répond nullement pas aux besoins de la neutralité de cette instance. Il faut imaginer une formule qui, je crois, peut être à mesure de donner à l'infini sa crédibilité et sa neutralité. Mais la formule actuelle, qui a consisté évidemment à mettre côte à côte des gens de l'opposition et du pouvoir, évidemment, avec un équilibre au profit du parti, ça a été une véritable catastrophe en termes d'institutionnalisation de l'élection, parce qu'en fait, la FMI, c'est une manière d'institutionnaliser un organe pour résoudre la question de la légitimité. Et je me dis que là, on n'a pas gagné le pari. Certainement, on fait un choix.
Merci, professeur Félicien Kabamba, monsieur le conseiller Raphaël Loulou. Brève réaction avant de prendre cette réaction qui nous vient de Lubumbashi Katanga pour vous.
Bon, je crois que ce que nous devons dire aux Congolais est que la République démocratique du Congo est un État. C'est un État, certes qu'il y a des choses qui ne marchent pas, mais je n'oserais pas déclarer que mon État à moi est une république bananière, non. Parce que il y a des institutions qui fonctionnent normalement, il y a des lois. Ce n'est pas parce que on trouve une entorse quelque part, ou peut-être à un certain niveau dans l'organisation des choses, il y a certaines erreurs, que tout le monde reconnaît bien sûr qu'on doit dire que c'est un État qui n'existe pas. Je dis non, ce n'est pas de cette analyse-là. De deux, la République démocratique du Congo en tant qu'État ne peut pas être gérée par les points de vue des ONG, des organisations non gouvernementales, des structures non gouvernementales, et comme si ce sont ces structures qui doivent faire marcher les institutions républicaines. Non. Je pense que les avis que donnent certaines structures, comme la mission de l'Observation des Nations Unies, viennent nous montrer qu'il y a des erreurs, même si nous-mêmes nous les avions remarquées au départ, mais il y a lieu de revoir certaines choses. Et que nous ne pouvons pas dire que ce sont ces structures-là qui doivent maintenant nous donner la ligne de conduite à suivre. Je dis non. Quant à, même en ce qui concerne l'organisation de la récomposition du bureau de la CENI, les avis que les uns et les autres sont en train de donner aujourd'hui, ce sont des avis qui devaient trouver tout son sens, tout leur sens, avant. Et je pense que ça ne s'est pas fait en cachette, parce qu'aujourd'hui, la logique, j'aime bien les gens qui, quand ça ne marche pas, quand ils trouvent quelque part, ils épousent la logique footballistique. Ça ne marche pas, c'est la faute à l'entraîneur. Mais quand ça marche, c'est nous tous qui avons bien joué et nous avions bien marqué. Mais à l'époque, c'est au Parlement où se trouvaient et les gens de l'opposition et les gens de la majorité qui tout se jouaient. Je pense que c'est à ce moment-là que les uns et les autres, de la majorité, tout comme de l'opposition, et beaucoup plus ceux qui aujourd'hui se montrent être le centre de l'opposition, qui sont détenteurs de la vérité, c'est à ce moment-là qu'ils devaient tirer la sonnette d'alarme pour dire « Tiens, ça ne va pas marcher ». Mais où étaient toutes ces réflexions savantes? Où étaient-elles?
Donc la classe politique doit assumer ses turpitudes.
Assumer, bien sûr, mais accepter de corriger ce qui doit être corrigé et de ne pas dire que tout ne va pas, qu'on doit faire table rase. Pas peu. Même toutes ces organisations qui sont en train de donner des avis. Il n'y a aucune organisation qui a dit les élections en République démocratique du Congo, parce qu'il y a des irrégularités, parce qu'il y a des critères, parce qu'il y a ceci et cela, on les annule. Non. Ces institutions sont en train de nous alerter pour que les prochaines élections soient organisées dans la transparence et qu'elles soient fiables. Voilà la démarche positive qu'il faut suivre.
Merci, monsieur le conseiller. Sénateur Narugabo, vous intervenez après cette réaction qui nous vient de Mbujimayi pour vous.
Ingénieur Raymond Mouyi Katoukoulou, de Mbujimayi, dans la province du Kasaï oriental. Je suis désolé de la tradition de l'Union européenne par rapport à la crise de certains des pays membres qui, unanimement, avec les différentes missions d'observation électorale, ont condamné les graves irrégularités qui ont entaché ces élections du 26 novembre 2021. Mais, grave est de constater que les dernières déclarations du ministre belge des Affaires étrangères selon lesquelles les irrégularités constatées européenne et pourrait remettre en cause l'ordre des candidats tels cités par la Commission électorale nationale indépendante et la Cour suprême de justice. Ces déclarations sont de nature à légitimer les régimes en place. C'est de la pire des factions que nous avons déjà vu et vécu dans notre pays. Seul l'avenir pourra nous donner raison.
Réaction sénateur Nerouda. Je suis d'accord avec l'intervenant. Effectivement, je ne comprends pas comment on peut dire qu'il y a eu des irrégularités, il y a eu des fraudes, mais elles ne sont pas de nature à modifier l'ordre d'arrivée. Qui a dit ça? Et sur base de quoi? Une affirmation gratuite. Si vous voulez soutenir le régime, c'est là de trouver un argument un peu plus intelligent. Monsieur le Vin, je viens d'entendre quelque chose qui m'a étonné. Mon ami Raphaël Houlou dit que tout ce que nous vivons aujourd'hui, nous les détenteurs de la vérité, on aurait dû le dire en son temps au Parlement. Je me rends compte qu'il n'est pas informé, pourtant c'est lui qui suit, pour le président de la République, les activités du Parlement. Pourquoi la loi sur la CENI a été votée par l'Assemblée nationale contre les avis du Sénat? Pourquoi? C'est parce que justement, nous avons tenu, il y a eu 5 points de divergence majeurs qui ont fait que il votait la loi en utilisant les prérogatives de l'article 135 de la Constitution. Nous avions dit on ne peut pas avoir une CENI avec un seul organe qui a tous ses pouvoirs. Il fallait qu'il y ait une assemblée générale de 26 membres avec un membre par province, nouvelle province bien sûr. L'Assemblée nationale a refusé. Nous avons dit on ne peut pas avoir non plus 7 membres, il fallait qu'il y ait 9 et qu'ils ne soient pas désignés par les partis politiques, ils ne peuvent pas être indépendants. Des partis politiques qui viennent de les désigner, il fallait qu'il y ait au moins quelques membres de la société civile qui ont la présomption d'indépendance et de neutralité. L'Assemblée nationale a refusé. Donc, l'implication de la société civile, ils ont refusé. Il y a beaucoup d'autres points sur lesquels nous tenions et l'Assemblée nationale a refusé. On n'a pas trouvé de compromis et ils ont exploité la vie sans grand compte. Donc, je voulais simplement le dire pour rappel, pour dire que ce que je dis ici, je le dis au Sénat. Beaucoup d'autres collègues l'ont dit et on n'a pas été compris. Alors, sénateur,
j'espère que comme les Européens ont dit, peut-être qu'ils vont maintenant apprécier.
Alors, quand la mission d'observation propose que l'on recompose la CENI en tenant compte du nouveau paysage politique, qu'est-ce qui pourrait changer par rapport à la configuration actuelle?
Je ne sais pas de quoi il parle exactement, mais moi, je pense que la première chose, c'est d'impliquer dans la CENI des personnalités effectivement indépendantes. Déjà au niveau du choix, au niveau de la désignation, s'il y a des gens qui ont au moins la présomption d'indépendance, de neutralité, même s'ils peuvent changer dans après, ça c'est autre chose, c'est même un problème d'individu. Mais structurellement, il faut qu'il y ait des mécanismes qui permettent de présumer que les personnes sont indépendantes. Sinon, un parti politique désigne un cadre, son cadre, l'envoie à la CENI. Et vous pensez que le lendemain, la personne devient indépendante comme par une baguette magique? Non. Je pense qu'il y a 2-3 choses qu'on peut faire. La première, il faut qu'il y ait différents organes. Des organes qui décident, d'autres qui exécutent, d'autres qui contrôlent. Donc, une assemblée générale qui peut évaluer et contrôler le travail fait par le bureau. Donc, quelques organes, pas un seul. Deux, que la désignation des membres du bureau, les membres du bureau soient désignés par leur père, pas par les partis, mais par leur père. Ainsi de suite. Et qu'il y ait aussi, troisièmement, l'implication de la société civile. Je pense que ces trois éléments peuvent aider à améliorer tant soit peu le contenu de ce qu'on a aujourd'hui comme CENI.
Professeur Félicien Kabamba, vous intervenez également après cette réaction qui nous vient de Mbandaka, l'Équateur, pour vous.
Je suis Adolphe Mopéli de Mbandaka, professeur de l'Équateur. Mettre en place la Cour constitutionnelle, c'est bien, mais il faut que cette Cour soit indépendante du pouvoir en place.
Réaction, professeur.
Bien entendu. La Cour doit être indépendante de l'exécutif. Elle doit pouvoir travailler de manière tout à fait impartiale. Et pour le faire, il faut que les textes qu'il institue prennent les précautions d'instituer cette indépendance. Sinon, elle deviendra une sorte d'appendice de l'exécutif ou de la présidence de la République. Et moi, je crois que toutes ces précautions doivent être prises pour que, de manière opérationnelle, la Cour qui va être mise en place soit une cour qui répond aux exigences de la démocratie et qui répond aux problèmes que nous rencontrons aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on a là des problèmes que la Cour suprême de justice aura certainement difficile à gérer avec, évidemment, toutes ces nominations en cascade qui ont été évoquées par l'honorable Moïse à la veille des élections. Donc, je suis tout à fait d'accord, mais je voudrais là aussi insister sur le fait que un acteur majeur comme la société civile ne peut pas être absent d'une institution au cœur des enjeux politiques comme la CENI. Et ça a été, à mon avis, l'une des grandes bavures que détruit la société civile d'une telle institution. Et aujourd'hui, il faut absolument reparer ça. La société civile, je parle là d'une société civile de terrain, pas d'une société civile politique comme on l'a connue, mais d'une société civile que nous voyons de temps en temps dans les ateliers, que nous voyons de temps en temps sur le terrain, qui ont suivi le processus électoral. Cette société civile-là a un rôle capital à jouer dans cette structure d'arbitrage qui est la CENI. C'est extrêmement important. Si une recomposition il y a, il faut absolument, et d'ailleurs moi je crois qu'il faut donner un poids majeur à la société civile par rapport à d'autres acteurs.
Mais professeur, l'ancien CEI était composé également des membres de la société civile, mais cela n'a pas empêché que son travail soit également fustigé.
Je viens d'insister sur le fait qu'il faut qu'il y ait une société civile de terrain, une société civile opérationnelle, et non pas une société civile politique. Et là, c'est parce qu'on a connu une société civile qui a été totalement inféodée aux politiques, et ça, c'est une mauvaise notion de société civile. Nous avons là des grandes ONG, des associations, qui accompagnent les processus électoraux et qui suivent, qui ont participé à la formation de beaucoup de témoins, ainsi de suite. C'est de cette société civile-là que je parle. Il ne s'agit pas d'une société civile politique.
Professeur, avant de donner la parole au conseiller Raphaël Loulou, parmi les recommandations, il y a également la simplification des bulletins de vote et l'audit et la révision du fichier électoral. Brièvement, professeur, qu'est-ce que vous pouvez dire à ce sujet?
Oui, je crois que la simplification du bulletin de vote a été finalement une recommandation à laquelle moi-même j'avais déjà pensé. Quand on voit la taille du bulletin de vote qui a été utilisé surtout pour les élections législatives, on se demande bien si nous allons continuer à avoir des bulletins de vote de cette taille. Ne faut-il pas trouver une formule simplifiée? Ça, c'est véritablement un débat qu'il faut lancer. Et moi, je crois que c'est une recommandation qu'il faudra étudier à la loi.
Merci, professeur Félicien Kabamba. Je rappelle en ce sens qu'il me reste moins de 8 minutes pour terminer l'émission. Monsieur le conseiller Raphaël Loulou, vous intervenez après cette réaction qui nous vient de Lubumbashi au Katanga pour vous.
Professeur Victor Okombe de Lubumbashi au Katanga. La recomposition de la CENI est une obligation, à mon avis, suite à la mauvaise qualité de travail que cette institution vient de nous offrir. Cette recomposition doit concerner aussi bien les textes que les hommes. Concernant les textes, je prends l'exemple du long moment qui s'écoule entre l'élection et la programmation des résultats, avec la fameuse compilation. Ce moment, à mon avis, doit être revu. Cela va de soi concernant le bureau, qui doit, à mon avis, démissionner pour préserver le peu d'honneur qui lui reste encore. Et pour la suite, je recommande que notre CENI puisse fonctionner selon le modèle ivoirien, avec l'ONU pour la certification des résultats. L'ONU est déjà là chez nous, et depuis longtemps, elle nous accompagne. À mon avis, ça ne sert à rien de se réfugier derrière des prétextes de souveraineté pour cacher les insuffisances.
Prenons, monsieur le conseiller, l'aspect certification par l'ONU. Quelle est votre analyse?
Non, je pense que nous ne pouvons pas refuser que la MONUSCO soit là, elle est déjà là. Nous ne pouvons pas non plus dire que nous allons hypothéquer l'indépendance ou la souveraineté de notre État. Non, nous ne pouvons pas l'accepter non plus. Mais néanmoins,
est-ce envisageable, par exemple?
C'est envisageable, c'est discutable, c'est question de voir ce qui est faisable, on le verra. Hein, je voulais ici, avant de terminer, rappeler à l'honorable au sénateur Niaro Gabo. Je ne fais que le suivi des activités du Parlement, je suis mieux informé. Il ne faut pas qu'il croit que je ne connais pas. La discussion, lorsqu'on est démocrate, c'est celui qui vient d'un parti, le RCD, il doit le rester, même dans le débat, même au Parlement où il est, au Sénat. La discussion au Sénat
lorsque elle a été entamée et à la fin, et il y a toujours une majorité qui l'emporte et la minorité s'incline. Mais il ne faut pas dire que non, je n'étais pas d'accord. Non, il faut dire qu'à ce moment-là, cette décision qui a été adoptée, c'est une décision qui engage tous ceux des parlementaires qui ont pris part à l'examen de la question. Vous comprenez? Donc, les débats autour de la composition de la CENI, je me souviens, c'était entre 7 et 9 membres. Et il fallait intégrer les membres de la société civile. Même si le prof, vous avez senti même dans l'analyse du prof que il parle de la société civile, et pas de l'autre société civile. Non, attendez. Lorsque vous avez ce genre de débat, et on n'arrive pas à trouver un compromis, les mêmes membres de la société civile s'expriment. C'est pas le pouvoir qui a dit que la société civile ne doit pas être là. C'est eux-mêmes, les membres de la société civile, qui n'ont pas cherché à être là, qui n'ont pas réussi à être représentés. Et bien évidemment, ils n'ont pas fait le lobbying au Parlement. Voilà comment la société civile n'a pas été là. C'est pas le pouvoir. C'est pas aujourd'hui qu'on viendrait dire c'est la faute au pouvoir de ne pas intégrer la société civile. Si, avec la révision qu'on est en train de proposer, la société civile va revenir et pourra être intégrée, il n'y a pas un problème pour le pouvoir. Donc, j'ai voulu vraiment apporter cette précision.
Sénateur Moïse Nyarugabo, il faut déjà conclure. Prenons la recommandation relative à la répartition claire des compétences entre le ministère de la Communication et des Médias et le Conseil supérieur de l'audiovisuel. En guise de conclusion.
Deux, trois petites choses à préciser, monsieur le journaliste. D'abord, démocrate, je le suis. Et j'ai été dans les débats. Mais nous, on n'a pas voté la loi sur la CENI. Je sais. Donc nos points de vue n'ont pas été pris en compte. Et même si ils avaient été pris en compte, cela ne nous empêche pas de la critiquer. Non. Et je veux dire aussi, la société civile a essayé. Elle nous a rencontrés. Elle a été dans les commissions. Bon, elle n'a pas été entendue. Mais on ne peut pas dire qu'elle n'a pas fait de lobbying. Si elle n'a pas fait de lobbying suffisant, là maintenant, la prestation, ce n'est pas à moi. Par rapport à la communication et au ministère de la communication et de ces partis. Je pense qu'il y a un véritable problème, effectivement. Aujourd'hui, on ne sait pas qui fait quoi. Dans beaucoup de cas, c'est le ministère de l'information et presse qui intervient, qui prend des décisions, qui suspend telle chaîne et telle autre, des fois même à l'insu du Conseil supérieur de l'audiovisuel de la communication. Donc il y a beaucoup de problèmes à ce niveau. Peut-être que on va encore revoir la loi sur ce Conseil supérieur pour voir s'il faut redéfinir les compétences. Mais je crois que c'est aussi un problème d'application de loi. Ce n'est pas parce que nous avons des mauvaises lois, mais c'est parce que nous ne les appliquons pas. Mais je veux dire, lorsque je regarde, lorsque je regarde aussi même ce Conseil qui parle de l'audiovisuel, je me rends compte, un peu comme par hasard, que celui qui préside ce Conseil est quand même ancien conseiller du président de la République, en tout cas très proche, monsieur Labbé, un peu comme le président de la CENI. Est-ce que c'est une coïncidence comme ça, ou c'est bien réfléchi? Je crois que ça s'appelle aussi clientélisme. On doit expliquer ça.
Merci. Professeur Félicien Kabamba, un mot pour terminer.
Bon, ce que je peux dire à propos de ce rapport, c'est que ce rapport est vraiment une occasion pour nous de réévaluer évidemment le processus électoral. C'est vrai que le rapport est très documenté, il est très riche, il a beaucoup d'éléments. C'est des gens qui ont été sur le terrain en le lisant. Moi-même, j'ai appris beaucoup de choses. Je crois qu'il faut vraiment exploiter ce rapport si nous devons améliorer le processus électoral en futur.
Merci.
Là, justement, que nous ne pouvons pas abandonner. Il faut absolument l'exploiter. C'est un instrument, à mon avis, qui est très, très, très important.
Merci, professeur. Monsieur le conseiller Raphaël Loulou, un mot pour conclure.
Pour conclure, nous disons que le rapport final de l'Union européenne
est une bonne chose, dans la mesure où ce rapport ne vient pas remettre en question les élections organisées en République démocratique du Congo. Ce rapport nous donne des pistes pour pouvoir améliorer l'organisation des échéances électorales à venir.
Merci.
Donc, qu'il y ait la transparence et la fiabilité.
Merci, monsieur, d'avoir participé à cette émission. Merci à vous, chers auditeurs et internautes, de nous avoir suivis. Dialogue entre Congolais, c'est terminé pour ce soir. Au revoir, à demain, même heure, même chaîne. Bye.